Midi et demi plus une minute, vous écoutez France Culture. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En pleine impasse diplomatique avec Washington sur la question du nucléaire, Kim Jong-un s'est employé ce matin à raviver les liens historiques entre Moscou et Pyongyang lors de son premier sommet avec un Vladimir Poutine plus que jamais désireux de s'impliquer davantage sur le dossier nord-coréen.
Le Sri Lanka encore sous le choc des attentats de dimanche dernier.
Le pays a été de nouveau saisi par la peur aujourd'hui après qu'une explosion a été entendue ce matin aux abords d'un tribunal de la banlieue de Colombo.
Dans votre journal également, en France, moment de vérité pour Emmanuel Macron.
Et le chef de l'État livrera ce soir ses réponses au grand débat pour tenter d'éteindre la crise des gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Enfin, l'invité politique de la rédaction. Dans une vingtaine de minutes, Frédéric Pechenard, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et candidat Les Républicains pour les élections européennes. Et puis à 12h56, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le politiquement correct gagne l'art, nous dit-elle. Notre invitée, Isabelle Barberis, elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes à l'occasion de la sortie de son nouvel essai sur le nouvel académisme culturel qui est en cours d'après elle.
Merci et à tout à l'heure. Son nom en russe signifie « maître de l'Est » et c'est donc là, dans la ville portuaire stratégique de Vladivostok, considérée comme la fenêtre de la Russie sur l'Asie, que le président Vladimir Poutine et son homologue nord-coréen se sont rencontrés ce matin pour la première fois. Une rencontre inédite, même si les relations entre Moscou et Pyongyang ne datent pas d'hier puisqu'elles remontent à l'ère soviétique, plus exactement lorsque l'URSS a choisi d'installer dans la péninsule un certain Kim Il-sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée et grand-père de l'actuel dirigeant, un homme qui en l'occurrence excellait notamment dans l'art de jouer sur la rivalité sino-soviétique pour obtenir des concessions de ses deux puissants voisins. Alors, 70 ans plus tard, si la Russie revient ainsi dans le jeu nord-coréen, ça n'est pas seulement du fait de sa proximité avec un régime dont elle partage toujours et encore un niveau de personnalisation extrême du pouvoir. Non, à travers cette rencontre, quand Moscou espère se tailler une place importante dans un dossier dominé aujourd'hui par Pékin et Washington, la Corée du Nord, elle, entend démontrer qu'elle possède d'autres options que celle d'être ballottée, donc entre la Chine et les États-Unis. Ou autrement, ici, tout est affaire de rééquilibrage. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Moscou. Alors c'est vrai que Moscou et Pyongyang ont en commun d'être alliés de longue date, en particulier dans leur confrontation avec les États-Unis, sauf que la Corée du Nord constitue aujourd'hui l'un des rares domaines de coopération russo-américaine. Et d'ailleurs, soucieuse de ne pas froisser Washington, la Russie avait tenu à se présenter comme un facilitateur et non comme un concurrent dans ces négociations. Dès lors, que pouvait espérer obtenir Kim Jong-un de cette visite? A-t-il reçu quelque chose, Claude, de son allié historique?
Écoutez Thomas, je vais essayer de répondre à votre question en reprenant une citation tout à l'heure à Vladivostok de Vladimir Poutine qui a dit « Si vous combinez la force, vous pouvez déplacer le rocher ». Donc c'est en citant à l'attention de Kim, bien sûr, un proverbe coréen que Vladimir Poutine a sans doute le mieux résumé l'intention qui caractérise officiellement le Kremlin aujourd'hui au sortir de cette rencontre initiale. Vous l'avez dit, plus pratiquement, le président russe a fait une offre de service à peine voilée à son invité, celle qui consisterait donc à jouer les intermédiaires entre Pyongyang et les Occidentaux afin de participer activement au processus de désescalade nucléaire dans la péninsule. Encore faut-il que Pékin accepte cette option et ça tombe bien puisque Vladimir Poutine enchaîne dans la foulée de Vladivostok un voyage en Chine. Le président russe a même précisé qu'il informerait également les Américains du contenu donc de cette rencontre avec Kim. Mais derrière ces déclarations de circonstance, il y a évidemment les intérêts bilatéraux qui apparaissent. La Russie a besoin de stabilité dans la grande région pour continuer à développer ses échanges beaucoup plus importants avec la Corée du Sud et le Japon. Et Kim, lui, a joué sur le fait que son hôte développe une stratégie planétaire de contrepoids à Washington, en convoquant par exemple l'histoire des relations, vous l'avez dit, entre les deux pays, quitte à remonter jusqu'à l'ère communiste. Kim espère ainsi que la Russie fera davantage que d'accueillir quelques milliers de travailleurs nord-coréens sur son sol. Certains d'ailleurs ont participé à la construction des stades lors du Mondial 2018. Mais le jeu est risqué dans un contexte de sanctions où régulièrement les Américains accusent Vladimir Poutine de profiter de la frontière terrestre entre la Russie et la Corée du Nord afin d'aider Pyongyang à contourner justement ces mêmes sanctions.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. Épreuve de ce que la Russie, là encore, entend conforter son image de pivot désormais incontournable dans les affaires internationales. Une nouvelle conférence sur la Syrie est organisée aujourd'hui au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie donc, mais conjointement avec l'Iran et la Turquie. L'objectif reste toujours le même, progresser sur la voie d'un règlement du conflit. Reste à savoir à quelles conditions les pourparlers d'aujourd'hui devraient notamment s'intéresser à la province d'Idlib, où vivent quelques 3 millions de personnes et qui hébergent par ailleurs le dernier bastion djihadiste en Syrie. Jusqu'à présent, la Russie a empêché Damas de déclencher une offensive pour reprendre son contrôle, mais à l'ONU, plusieurs pays redoutent que les Russes finissent par laisser le régime syrien reprendre la poche dans un bain de sang. 4 jours après les attentats simultanés au Sri Lanka qui ont fait près de 360 morts et un demi-millier de blessés, la peur a de nouveau saisi la capitale aujourd'hui, après qu'une explosion a été entendue aux abords d'un tribunal dans la banlieue de Colombo. 2 alertes à la bombe ont également été levées ce matin, ou quand les Sri Lankais vivent désormais dans la crainte permanente, ainsi qu'a pu le constater dans les rues de la capitale l'envoyé spécial de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
Il est midi à Colombo quand les employés de nombreux magasins du centre s'affolent. C'est une nouvelle alerte à la bombe. Ils renvoient donc tous leurs clients et tirent le rideau. Pendant de longues minutes, la crainte se lit sur les visages. Les gardes interdisent aux clients de sortir des hôtels. Cette alarme a été diffusée par la police, sûrement après l'explosion survenue aux abords d'un tribunal situé à 40 km au nord de la capitale. Depuis 3 jours, ce genre d'explosion rythme les journées. Elles sont généralement provoquées par l'équipe de déminage de l'armée quand ces derniers trouvent des véhicules ou des colis suspects. Mais dans ce cas, il semble que l'explosion a été spontanée, ce qui a inquiété tout le monde. Le climat demeure tendu donc au Sri Lanka. De nombreux commerçants musulmans n'ont pas encore rouvert leurs échoppes, certainement par peur d'hostilité des clients. Et surtout, les églises catholiques, elles, ont fermé leurs portes et ne célèbrent plus aucune messe jusqu'à nouvel ordre.
Au Soudan, le divorce entre l'armée d'un côté, prise de procrastination dans le transfert du pouvoir au civil, et la rue de l'autre, laquelle campe sur ses positions, serait-il sur le point d'être consommé hier à l'issue d'une réunion avec l'opposition visant à trouver une issue à l'impasse dans laquelle se trouve le pays depuis le départ forcé du président El-Béchir. Le chef du comité politique du conseil militaire au pouvoir a remis sa démission, de même que 2 autres généraux. Un accord sans plus de précision aurait été conclu avec les leaders de la contestation. Mais parce que l'opposition exige toujours que le pouvoir soit rapidement rendu aux civils, la mobilisation se poursuit. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour aujourd'hui afin de maintenir la pression sur les militaires. La correspondante de RFI pour France Culture, Nadia Blétry, a suivi les habitants qui arrivent dans la capitale depuis la ville d'Atbara, foyer de la contestation.
Debout sur les wagons, les voyageurs arrivant d'Atbara ont été accueillis comme des héros mardi, quand leur train est passé au ralenti devant le quartier général de l'armée où les manifestants organisent un sit-in. Abir Hachin Ahmed était dans le convoi. Elle est venue dans la capitale pour participer ce jeudi à la marche du million.
Tout ce dont on rêvait est en train de se réaliser. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas goûté à la liberté. Ça fait 30 ans qu'on vit dans l'ombre. Ça fait 30 ans qu'on ne peut pas manifester dans les rues.
Devant le quartier général de l'armée, des tentes aux couleurs de toutes les régions du pays sont alignées les unes après les autres. Sadiq Adam Abbas, lui, vient du Darfour, une région de l'ouest du pays où la répression a coûté la vie à 300 000 personnes, selon l'ONU. C'était impensable pour lui de ne pas venir manifester ce jeudi.
On est venu ici pour soutenir nos frères, pour se débarrasser de ce régime corrompu, pour lutter contre l'injustice, pour nos droits et pour ceux du peuple soudanais.
Avec leur marche du million, les manifestants adressent un message clair aux militaires. Il est temps de rendre le pouvoir aux civils.
C'est peu de dire que la concurrence sera rude dans le camp démocrate pour la prochaine élection présidentielle de 2020. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a officialisé ce matin sa candidature à l'investiture du parti. À 76 ans, il est le 20e candidat déclaré. Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, a déjà brigué par 2 fois l'investiture de son parti. C'était en 1988 et 2008. Le tribunal de Tokyo a annoncé ce matin avoir approuvé la libération sous caution de Carlos Ghosn. Le parquet a aussi tout fait appel, mais si ce recours suspensif venait à être rejeté, le magnat de l'automobile déchu pourrait rapidement retrouver la liberté, peut-être même dès aujourd'hui. La caution requise de 4 millions d'euros a d'ores et déjà été versée. Si l'interpellation musclée samedi dernier du journaliste indépendant Gaspard Glanz a relancé les critiques sur l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis de la presse lors des manifestations de Gilets jaunes, elle a également contribué dans une certaine mesure à relever, sinon la cote d'alerte à tout le moins, le niveau d'inquiétude s'agissant de la liberté de la presse. Or voilà qu'une nouvelle affaire nous amène à nous interroger. La convocation prochaine d'au moins 3 journalistes en vue d'une audition libre dans les locaux de la DGSI. Mathias Destal et Geoffrey Livolsi, fondateur du Média Disclose, ainsi que notre confrère Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France, ont été convoqués par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure dans le cadre d'une enquête pour atteinte au secret de la défense nationale. En cause, la publication d'un rapport très sensible sur l'utilisation d'armes de fabrication française dans la guerre au Yémen. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être convient-il de rappeler ce que dit ce rapport et ensuite pourquoi, Antoine, sa publication gêne-t-elle visiblement les autorités françaises ?
Eh bien, ce rapport est en fait une note confidentielle de 15 pages de la Direction du Renseignement Militaire datée du 25 septembre dernier. Elle a été transmise à l'Élysée à Matignon, au ministère des Armées et aux Affaires étrangères, et elle révèle noir sur blanc que des armes françaises sont utilisées sur terre, sur mer et dans les airs par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. Des chars Leclerc, des obus français, des Mirage 2000, du guidage laser et des canons français. Ces canons appuient l'avancée des Saoudiens sur le sol yéménite et ils pointent vers des zones de bombardement civil. Et depuis le début de cette guerre, ce sont au moins 35 civils qui sont morts dans des bombardements à portée de canons français. Cette note révèle également des aides indirectes apportées par la France à cette guerre, des hélicoptères de combat, du transport de troupes, des radars ou des avions ravitailleurs, des bateaux qui participent au blocus maritime empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire. Et les ventes d'armes françaises vers l'Arabie Saoudite continuent depuis la guerre. Le problème, c'est que Paris a toujours nié l'utilisation d'armes françaises sur la ligne de front au Yémen. Ces journalistes ont donc révélé un mensonge d'État. Mathias Destal, Geoffrey Livolsi du média d'investigation Disclose qui a publié le rapport et Benoît Colomba de la cellule d'investigation de Radio France qui a publié l'enquête de Disclose. Tous trois sont convoqués le 14 mai, mais par la DGSI, à la suite d'une plainte du ministère des Armées. Et la crainte de leurs avocats, c'est que l'on porte atteinte à leurs sources. Ils peuvent toutefois compter sur le soutien d'Amnesty International France, qui dénonce une complicité indirecte de Paris avec des crimes de guerre et qui qualifie les trois journalistes de lanceurs d'alerte.
Merci Antoine Marette. Des militaires français ont-ils été envoyés en Libye dans le but d'apporter un soutien logistique au maréchal Haftar dans son offensive contre Tripoli? Le site Middle East Eye affirme que 13 hommes armés et munis de passeports diplomatiques français ont été brièvement arrêtés en Tunisie en provenance de Libye. L'information a été démentie par Paris. La diplomatie française explique que ces hommes appartenaient à l'équipe de sécurité chargée d'assurer la sécurité de l'ambassadeur de France en Libye. Ni reniement ni entêtement. Après 3 mois de débat national, Emmanuel Macron présentera aujourd'hui ses mesures de sortie de la crise des Gilets jaunes dans l'espoir de redonner du souffle à son quinquennat à l'approche des élections européennes. Alors une partie de ces mesures a d'ores et déjà fuité dans la presse, ou dit autrement, le grand oral auquel le président se prêtera ce soir à l'occasion d'une conférence de presse à l'Élysée ressemblera surtout à un oral de rattrapage. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Dès lors que le chef de l'État ne pourra pas convaincre et encore moins satisfaire tout le monde compte tenu de la nature protéiforme des revendications entendues depuis plus de 5 mois, que peut espérer Emmanuel Macron de son allocution?
Deux objectifs ce soir. Tout d'abord, mettre un point final à la crise des Gilets jaunes. Et deuxième objectif, espérer convaincre avant les élections européennes. Très difficile à atteindre ces objectifs quand la plupart des mesures ont déjà fuité dans la presse. Difficile de créer l'événement. Alors que dans une enquête électorale publiée par le journal Le Monde hier, près de 70% des sondés qui sont sûrs d'aller voter ont répondu non, quelles que soient les annonces de ce soir. Ils ont déjà fait leur choix. Seule exception à noter, chez les jeunes de moins de 25 ans, 1 sur 2 déclare attendre les mesures annoncées ce soir pour se décider définitivement. Une annonce en faveur de la jeunesse pourrait donc être une stratégie ce soir.
À qui, au fond, doit s'adresser ce soir Emmanuel Macron? Aux Gilets jaunes, à son électorat dans la perspective des européennes, ou bien à ceux qu'il espère voir rejoindre son camp?
Alors s'adresser aux Gilets jaunes, notamment aux irréductibles qui continuent de manifester, semble perdu d'avance. Et Emmanuel Macron a, d'une certaine manière, déjà répondu à 2 reprises, le 10 décembre dernier, avec des mesures pour un coût global de 8 à 10 milliards d'euros, et surtout ensuite avec l'affirmation du gouvernement et de la majorité comme parti de l'ordre face au désordre ou à la chienlit, comme le disait le général de Gaulle. lors de ses vœux en janvier. Pour s'adresser à son électorat, ceux qui ont voté pour le concept du « en même temps » et espérer aussi élargir sa base, deux mesures phares sont sur la table, selon les fuites. La baisse d'impôts pour les classes moyennes et la réindexation des petites retraites sur l'inflation, qui devrait être confirmée ce soir. C'est malgré tout un moment très attendu pour Emmanuel Macron, comme le disait chez nous il y a deux semaines Isabelle Falque-Pierrotin, garante du grand débat. 1,5 à 2 millions de personnes ont participé au grand débat dans des réunions sur le terrain et sur Internet et elles attendent une transformation politique majeure.
Merci Sophie Delpont. C'était en 2007, affrontant sa vieillesse à l'écran. Il incarnait un septuagénaire accro aux claquettes, perdant de sa légèreté sous le poids de l'âge. Hier, à 87 ans, Jean-Pierre Marial a donc tiré sa révérence en quittant définitivement la scène des suites d'une longue maladie. Incarnation d'une époque où les acteurs se délectaient à jurer et à fumer à l'écran. Jean-Pierre Marial, avec son port altier, sa voix inoubliable, à la fois grave et enjouée, son air désabusé, délicieusement malicieux. Il était le dernier grand duc du cinéma français. Nommé 7 fois au César, il avait joué dans plus d'une centaine de films et d'innombrables pièces et téléfilms. Maude Calves, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec son humour gourmand, le registre du libertin grivois aura évidemment longtemps été le sien, mais Jean-Pierre Marial se sera aussi illustré dans nombre de rôles dramatiques.
Nombreux, oui, avec plus d'une centaine de films à son actif. Grande figure du théâtre également, Jean-Pierre Marial a incarné tous les genres. Mais après l'annonce de sa mort, on se remémore les extraits marquants, comiques, tonitruants, comme cette scène jouée dans Le Grand-Duc, aux côtés de Philippe Noiret et Jean Rochefort.
Touche pipi, pelotage dans les couloirs, hein. Concours de petites culottes.
Non mais il l'a pas peloté, il l'a gaulé.
Oh, mais de n'importe quelle façon, je trouve ça infantile, c'est tout, c'est même pas kitsch, c'est banal.
Un extrait parmi beaucoup d'autres, bien loin de pouvoir illustrer la richesse de sa carrière. Le réalisateur du film, Patrice Lecomte, se souvient d'un homme retentissant, mais pas seulement.
Ce qui me touchait infiniment dans la vie, comme dans les rôles, c'était ces zones d'ombre, ça, ces zones tristes, pessimistes, à broyer du noir, c'est pas ça, mais quand les rôles lui permettaient d'être dans ce registre-là, il était absolument bouleversant, quoi. Il était vraiment, moi, j'ai pas foutu les larmes aux yeux, quoi. Enfin, vraiment, sur le parfum d'Yvonne, je me souviens, moi, il m'a fait chialer, quoi, vraiment.
Sur le plateau, jamais un seul caprice. Réalisateur et comédien ont travaillé ensemble à deux reprises pour Le Parfum d'Yvonne et Le Grand-Duc. Patrice Lecomte décrit un acteur joyeux, prêt à relever tous les défis, sauf peut-être cette fois où Jean-Pierre Marial apprend que George Cox, son personnage, doit se déguiser en femme.
Il me dit, ah ben non, mais ça, Patrice, c'est pas possible. Moi, je peux pas m'habiller en femme, je suis désolé. Jamais, jamais. Non, mais prenez quelqu'un d'autre, Patrice, mais moi, je ferai pas. On a fini par le convaincre de mettre un tailleur Chanel qu'on avait fait à sa taille, enfin, genre Chanel, et il s'était régalé.
Après une longue liste de qualités attribuées à Jean-Pierre Marial, le réalisateur, en guise d'adieu, lui souhaite bon vent. Jean-Pierre, pensez à vous fendre la poire avec Noiret et Rochefort qui vous attendent depuis un moment.
Merci Maude Calves. L'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Frédéric Pechenard, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et candidat Les Républicains pour les élections européennes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Pechenard, en tant qu'ancien directeur général de la police nationale, est-ce que vous considérez que les diverses mesures qui ont été adoptées et les dispositifs mis en place aujourd'hui pour encadrer les manifestations des Gilets jaunes sont adaptés? En clair, est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour à la fois permettre à ceux qu'il souhaite de manifester, tout en évitant les dérapages?
Mais j'ai envie de dire, il était temps de changer son fusil d'épaule. Il y a de ça déjà plusieurs semaines, sur une radio concurrente de la vôtre, j'avais proposé d'interdire certaines manifestations quand on savait qu'elles allaient dégénérer en émeute et de changer la doctrine. Non pas la doctrine d'emploi de la police nationale dans les manifestations, qui est parfaite, puisqu'elle permet aux manifestants et elle protège les manifestants, mais quand vous avez affaire à des gens qui viennent pour brûler des voitures, pour piller des magasins, pour casser des vitrines, pour attaquer les policiers, vous n'avez plus affaire à des manifestants, mais à des émeutiers qui donc commettent des délits. Et à ce moment-là, il faut que la police devienne plus mobile, plus dynamique pour interpeller ces gens. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a vu samedi, et J'espère que ça continuera avec le moins de blessés et de victimes possible. Et j'en profite pour tirer mon chapeau aux forces de l'ordre qui vraiment, depuis 23 semaines, font un travail absolument remarquable dans une ambiance extrêmement tendue et pour l'instant sans dommage irréparable.
Une question de Stéphane Robert.
Donc vous avez dit interdire les manifestations. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et vous dénonciez cette histoire de doctrine, de problème de doctrine, il y a encore quelques semaines, quelques mois, qui consiste pour les forces de l'ordre en France à éviter les contacts, en quelque sorte, avec les manifestants. Est-ce qu'on en est encore là pour vous? Est-ce que ça, c'est toujours un problème aujourd'hui? Et cette doctrine, elle vise aussi à éviter qu'il y ait trop de dégâts, notamment à ce qu'il y ait des morts. Est-ce qu'on peut prendre ce risque-là?
Alors, la doctrine d'emploi de la police pour le maintien d'ordre est claire, c'est zéro mort. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est relativement rare dans le monde, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Et il faut savoir que chaque année, nous formons énormément de police, enfin la police française forme énormément de police étrangère au maintien de l'ordre. Bien. Quand il y a des manifestants, qui sont des gens qui viennent manifester pacifiquement, la doctrine, c'est pas de contact. Et même s'il y a des gens qui sont un tout petit peu énervés, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact parce que il faut impérativement qu'il n'y ait pas de blessés graves et zéro mort. C'est ça, la priorité de la police française. À partir du moment où vous avez en face de vous des gens qui viennent au contact, eh bien, il faut les repousser. Et à partir du moment où vous avez des gens qui commettent des infractions, ben, il faut les arrêter. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est pas la doctrine d'emploi qui change, c'est l'emploi. C'est-à-dire que vous passez d'une phase statique de protection de la manifestation à une phase dynamique où les policiers doivent aller interpeller les délinquants ou les criminels.
Est-ce que vous comprenez ce débat autour des lanceurs de balles de défense?
Ben, je comprends tous les débats à partir du moment où il y a des blessés, et des blessés graves. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blessé grave? C'est un blessé qui est handicapé de manière permanente. Voilà. Un blessé, c'est jamais anodin. Et croyez bien une chose, j'ai été policier pendant plus de 30 ans, à chaque fois qu'on fait des manifestations, à chaque fois que ça, les policiers ou les gendarmes, parce que les gendarmes ont été aussi beaucoup associés à ces épisodes gilets jaunes, la priorité, c'est d'éviter au maximum zéro mort et le moins possible de blessés. Donc c'est une priorité. Donc à partir du moment où vous avez des blessés, et des blessés qui sont des blessés importants, quand vous perdez un œil, quand vous avez une main arrachée, c'est des faits qui sont graves, et bien sûr, on doit se questionner. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut démobiliser les services de police, qu'il faut leur enlever tous les moyens de protection, mais il y a forcément des discussions à avoir. Par exemple, sur le lanceur de balles, eh bien on pourrait imaginer, moi j'ai été tester ça avec une police municipale dans le 94 dans mes fonctions de vice-président, un lanceur de balles de défense qui, en fait, ne peut pas être actif à partir du moment où vous tirez trop haut. Et donc, ça empêcherait les tirs accidentels vers la tête. Et c'est là où il y a les risques les plus importants.
Un certain nombre de personnalités politiques, notamment, dénoncent une répression policière. L'ONU, à travers sa commissaire aux droits de l'homme, a récemment mis en cause la France pour usage excessif de la force. Est-ce que c'est votre avis?
Alors, je vais vous dire, moi, je suis toujours très, très calme. Puis, on est ici dans une antenne où on parle calmement. Enfin, là, on se moque du monde. On se moque du monde. Les violences policières en France. Je veux dire que dans quel pays du monde, il y aurait des manifestations pendant 23 samedis consécutifs? Il y a eu plus de 2000 policiers blessés. Il y a les symboles de la République qui ont été attaqués, qui ont été brûlés. Moi, je suis élu du 17e arrondissement. Le 17e arrondissement a été ravagé, l'intégralité dans les rues de la rue de Progny ou de la rue de Courcelles, des magasins ont été vandalisés. Et à l'arrivée, nous avons zéro mort. Vous regardez que ce qui se passe à l'extérieur, les choses ne sont pas du tout comme ça. Donc je crois qu'il faut garder un petit peu de sang-froid, regarder ce qui se passe chez nous et se féliciter de la façon dont la police et la gendarmerie gèrent ces crises qui sont des crises très difficiles.
Vous êtes ancien directeur de la police nationale. Vous êtes aussi élu à la région Île-de-France. Vous êtes vice-président. Vous êtes élu à Paris. Or, vous êtes candidat aux européennes en 9e position, donc en position éligible. Prêtez donc à vous saisir de questions qui, a priori, n'apparaissent pas comme vous étant familières. Qu'est-ce qui vous a pris?
Ah ben, c'est exactement le contraire. C'est des questions qui me sont extrêmement familières. Vous savez, quand j'étais directeur général de la police, je siégeais à la task force des chefs de police européens. Ça a changé de nom, ça s'appelle le COSI maintenant. Mais ça veut dire que très régulièrement, j'avais rendez-vous à l'Europe avec les 27 collègues et on discutait des problèmes de sécurité. Or, l'Europe, les gens le savent peu, mais a fait énormément pour la sécurité, et notamment la sécurité de la France. Ont été votées et sont mises en application, par exemple, les équipes communes d'enquête, qui permet à plusieurs pays, à plusieurs polices de travailler en même temps sur une affaire. Ça a été très efficace, par exemple, sur les attentats du Bataclan, équipe commune d'enquête avec la Belgique. Il y a également le système d'information Schengen, il y a également le mandat d'arrêt européen, etc., etc. Juste un mot, la patronne de Scotland Yard, Cressida Dick, a déclaré en décembre dans une conférence de presse qu'il fallait que les Britanniques comprennent bien que la sortie de l'Europe était une mauvaise nouvelle pour leur sécurité à eux et que jamais la police anglaise ne serait capable d'assurer le même niveau de protection sans les outils européens que sont Europol, que sont Frontex, que sont le mandat d'arrêt européen, etc. etc. Donc la sécurité, c'est ce qui m'anime, ce qui m'intéresse moi dans le monde politique dans lequel je vis, c'est d'améliorer la sécurité des Français. J'ai été policier 30 ans. Je suis vice-président de la région en charge de la sécurité. Si je suis élu à l'Europe, j'irai évidemment dans la commission qui s'occupe de justice et des affaires intérieures et j'essaierai d'améliorer et d'apporter ma pierre à l'édifice.
Une dernière question très rapidement.
Vous avez failli entrer à ce gouvernement en novembre dernier. Or, aujourd'hui, vous êtes candidat sur la liste Les Républicains. Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que il est encore pertinent, selon vous, de dire qu'on est de droite?
Oui, je suis de droite. Il est pertinent de dire qu'on est de droite. Être de droite, ça ne veut pas dire qu'on critique tout, au contraire, quand le gouvernement fait des choses qui vous paraissent bien pour moi, eh bien je le dis. Quand ils font des choses qui sont pas bien, je le dis également. Et une des difficultés, je crois, qu'on a aujourd'hui, c'est que la stratégie du président Macron, c'est moi ou le chaos, ou voter pour moi, ou vous aurez les extrêmes. Et moi, je crois qu'il est extrêmement important qu'on puisse renforcer la droite républicaine, et d'ailleurs la gauche républicaine. Je fais partie de ceux qui se désolent de voir le Parti Socialiste à 5%. Voilà. Moi, je pense qu'il est très important dans une démocratie qu'on ait une gauche républicaine et une droite républicaine. Donc, j'encourage les gens, en tout cas, à voter pour ma liste.
Merci Frédéric Pechenard, je le rappelle, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et candidat Les Républicains donc pour les élections européennes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. Un front pluvieux concernera l'ensemble du territoire cet après-midi. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.